Bonsoir Yves Verrier.
Bonsoir.
Alors ce matin, sur France Inter, le ministre de l'économie Bruno Le Maire a déclaré « Jamais le compromis ne m'a semblé aussi proche ». Est-ce que vous ressentez la même chose à la veille de cette nouvelle réunion avec le gouvernement ?
Mais je ne sais pas de quel compromis il parle ou à qui il s'adresse. En réalité, je crois un peu comprendre. C'est autour de cette question d'âge pivot qui pourrait devenir temporaire et non pas viager, ou de conférence sur le financement à venir des retraites qu'a proposé Laurent Berger pour la CFDT. Moi, ce que je dis à ce sujet, encore une fois, bien évidemment, si le gouvernement qui a voulu accélérer les mesures paramétriques parce qu'il a dû reculer avec la mobilisation sur la mise en œuvre effective du projet de régime unique par points, hein, puisque ce sera la génération 75 et non plus la génération 63 comme initialement prévu. Du coup, le gouvernement a ajouté un âge pivot qui démarrerait dès 2022, j'imagine, pour accélérer les mesures paramétriques destinées à faire des économies sur le dossier des retraites. Mais justement, moi, je ne suis pas dupe. Et le fait qu'on nous dise conférence sur le financement en parallèle ou âge pivot qui pourrait être dans un premier temps temporaire, moi, je ne suis pas dupe parce que c'est la logique même du régime unique par point. Demain, ce sont les gouvernements qui auront entre les mains tous les leviers pour agir sur l'ensemble du système de retraite et en particulier sur les paramètres, donc valeur du point à l'achat au moment de la transformation des points en retraite, qui vous donneront votre niveau de pension. Et si à 62 ans, le niveau de pension, ça ne suffit pas, bah vous n'aurez pas d'autre choix, si vous êtes encore au travail, que de continuer de travailler pour acheter des points, pour accroître votre capital de points. Donc, l'âge pivot, c'est un paramétrage supplémentaire, mais c'est la logique même du régime unique par points.
Ça veut dire que l'argument budgétaire du gouvernement autour de cet âge pivot qui dit on ne peut pas supporter le régime actuel des retraites, notamment avec l'allongement de la durée de vie, c'est un argument que vous n'entendez pas ou qui est faux pour vous ?
Je pense que avant de poser la question de l'économie, il faut regarder qu'est-ce qui pose un problème en termes d'équilibre financier du régime de retraite ou des systèmes de retraite. Le Conseil d'orientation des retraites dit que ça n'est pas une dérive de dépenses à horizon 2030, les 8 à 17 milliards de déséquilibre. C'est un manque de ressources qui vient notamment du fait qu'on a maîtrisé ce qu'on appelle la dépense publique, c'est-à-dire les rémunérations des fonctionnaires et le nombre de fonctionnaires, qui font qu'il n'y a plus assez de recettes pour alimenter le budget qui permet de payer, de verser les pensions des fonctionnaires. Donc, on peut, le Conseil d'orientation des retraites a fait une autre suggestion, augmenter la cotisation, par exemple. Et nous, nous avons proposé qu'on nous laisse négocier une augmentation de la cotisation de 1%, qui, selon le Conseil d'orientation des retraites, permettrait d'atteindre l'équilibre à horizon 2030, bien qu'on nous laisse négocier avec les employeurs la façon dont on pourrait augmenter cette cotisation. Mais le gouvernement n'attend même pas que les employeurs protestent. Il tout de suite nous a fermé la porte en nous disant pas question d'augmenter la cotisation. Donc si on ne baisse pas les pensions, ce que nous n'allons surtout pas demander bien évidemment, si on ne touche pas à la cotisation, il ne reste qu'un paramètre, c'est l'âge de départ à la retraite.
Et alors vous, par rapport à ce projet de réforme, vous demandez toujours le retrait, j'imagine. Pourquoi vous allez négocier alors que finalement vous n'êtes pas là pour négocier?
La réalité, c'est que il y a une espèce de leurre de la part du gouvernement. Ce qu'il nous propose, ça n'est pas de négocier sur le système des retraites. Il nous propose de négocier, par exemple, sur la question, demain, il y a une réunion qui portera sur l'emploi des seniors et sur la pénibilité. Mais ça, ce sont des questions importantes. Moi, je l'ai dit, avant de vouloir transformer le système de retraite pour des raisons d'équilibre ou d'économie, commençons par garantir un emploi à tout un chacun de l'entrée dans la vie active jusqu'au moment du départ à la retraite. On sait que en moyenne, 1 sur 2 qui liquide sa retraite aujourd'hui n'est plus en emploi. Donc il faut travailler sur le maintien dans l'emploi des salariés à 53, 54, 55 ans, etc. Bien. Donc là, il y a matière à négocier. Nous, nous avons fait beaucoup de propositions là-dessus et nous sommes prêts à négocier. Mais ça ne demande pas de modifier le système de retraite. Ça vaut dans le système de retraite actuel comme dans n'importe quel autre système de retraite, cette question de l'équilibre entre les actifs et les cotisants dans un système par répartition. Parce que bien sûr, la question de l'augmentation de l'espérance de vie qui fait que la démographie n'est plus la même et qu'il est plus difficile d'équilibrer un système de retraite financièrement aujourd'hui qu'il y a 20 ou 30 ans, cette question-là ne peut pas être évacuée. Mais commençons par garantir un emploi à tout un chacun. Les jeunes, quand ils entrent dans la vie active, qu'on fasse en sorte qu'ils aient un emploi pérenne, à temps plein, qu'on rémunère mieux les métiers qui sont mal rémunérés aujourd'hui, qui sont souvent des métiers féminins, qu'on regarde comment on évite le temps partiel subi, que subissent plus souvent les femmes, et qu'on regarde comment on améliore l'emploi des seniors. Une fois qu'on aura réussi là-dessus, l'équilibre des systèmes de retraite se posera dans d'autres termes. Donc nous sommes prêts à négocier là-dessus, mais ça n'a pas à voir avec la transformation du système de retraite. Là-dessus, on est en désaccord profond.
Et justement, au-delà du problème de l'équilibre du système des retraites, le gouvernement présente la retraite à points comme quelque chose de plus juste. Pour vous, ce n'est pas le cas ?
Non, ça n'est pas plus juste, pour une raison simple. C'est que le célèbre 1 euro cotisé vaudra les mêmes droits. Tout d'abord, signifie très clairement que petit salaire, petit capital de points, parce que vous en achèterez moins que si vous avez un grand salaire, et à l'arrivée, petit capital de points fera petite retraite. Donc c'est moins redistributif, à mon avis, et là on l'a examiné dans les détails, que le système actuel. Et deuxièmement, il sera plus difficile de se constituer son droit à la retraite en termes de niveau de pension, parce qu'il sera à construire sur toute la période de la vie active, donc y compris dans les périodes où vous n'avez qu'un petit salaire ou qu'un temps partiel, eh bien sur le delta de manque à gagner, vous n'achèterez pas de points. Aujourd'hui, vous validez des trimestres à partir d'un certain niveau de rémunération dans l'année, 150 SMIC fait un trimestre, et lorsque vous avez validé vos trimestres, vous calculez votre pension sur les meilleures périodes de la vie active. Dans le régime général, c'est les 25 meilleures années. C'est-à-dire que vous éliminez justement du calcul du niveau de votre pension toutes les périodes où vous étiez en début de carrière, à bas salaire, où vous avez été peut-être à temps partiel parce que vous n'aviez pas d'autre choix, où vous avez eu une interruption de carrière, etc., etc. Donc, ça n'est pas plus juste, ce sera plus difficile. Et qui plus est, ce sera incertain, parce que ce seront les gouvernements demain qui piloteront en dernier ressort les paramètres du système de retraite unique par points.
On va déborder un peu, mais j'ai vraiment envie de vous poser encore une ou deux questions. Le gouvernement revient tout doucement sur sa promesse d'un régime universel. On s'achemine vers des régimes spéciaux pour les policiers, les hôtesses de l'air, les pilotes, même peut-être les danseurs de l'opéra. En tout cas, il y a une proposition. Il y a des propositions de clause des grands-pères aussi, clause du grand-père sur dans certains domaines. Est-ce que vous craignez que ça essouffle le mouvement, tout ce lest lâché, un peu à l'image de ce qu'il y a eu pendant le mouvement des cheminots contre la réforme du statut des cheminots?
Mon objectif n'est pas d'empêcher les reculs du gouvernement sur ce qui nous paraît juste parce que ça essoufflerait le mouvement. Mon objectif est de faire en sorte que le gouvernement comprenne. Il a fallu malheureusement qu'on déclenche la grève le 5 décembre, parce que jusqu'au 5 décembre, malgré 2 ans et demi de concertation, le gouvernement n'a pas bougé d'un pouce. Il a fallu qu'on déclenche la grève pour qu'il s'aperçoive, un, qu'il n'avait pas réussi à convaincre, deux, qu'il fallait prendre des dispositions spécifiques pour un tas de situations pour lesquelles, à l'évidence, le gouvernement n'avait pas regardé dans les détails les conséquences de son projet de régime unique par points. Par exemple, les enseignants. Ça fait longtemps qu'on dit, nous, que les fonctionnaires, d'une manière générale, et les enseignants en particulier, sont mal rémunérés. Évidemment, si vous êtes mal rémunéré, avec un système par points où il faut constituer un capital de points sur la base de votre salaire, votre retraite, elle en pâtit. Mais ça n'était pas entendu par le gouvernement. Il a fallu qu'on mette sous les yeux du gouvernement des simulations dont il a dit qu'elles étaient des fake news, mais enfin, il a quand même fallu qu'on les produise pour qu'ils s'aperçoivent que ça n'allait pas. Même chose pour les professions dont vous venez de parler.
Alors, dernière question, il n'y a pas eu de trêve de la grève à Noël, mais factuellement on a vu que le taux de grévistes et le nombre de manifestants baissaient, notamment parce que ça coûte cher aussi de faire la grève. Si les réunions des prochains jours donnent rien, est-ce que vous comptez sur une vraie remobilisation dès le 9 janvier ?
C'est exactement l'état d'esprit qui est le nôtre. Moi, j'ai lancé à plusieurs reprises ces jours-ci un appel solennel à tous les salariés, jeunes, moins jeunes, femmes, hommes, de tout corps de métier, parce que c'est vraiment tout un chacun, toute une chacune qui est concernée aujourd'hui, demain, par ce projet de régime unique par points. Donc il faut véritablement, et le 9 janvier va être une date importante, on y travaille d'ores et déjà, dès ce lundi, demain mardi, après-demain mercredi, par le biais de réunions d'information, d'Assemblée générale des syndicats, pour faire en sorte, des salariés, pour faire en sorte que le mouvement soit le plus largement suivi possible.
Très bien, je vous remercie beaucoup, Monsieur Verrier. Je rappelle que vous êtes secrétaire général de Force Ouvrière. Bonne soirée à vous.
Bonsoir, merci à vous.